Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour. Fin 2020, les images de réfugiés grelottant sous la neige après l'incendie des tentes du camp de Lipa aux portes de l'Union européenne avaient fait le tour du monde. Un an plus tard, la Bosnie accueille le nouveau centre en dur de Lipa, mais il est pratiquement vide. Les exilés semblent vouloir éviter la zone à cause des violences de la police croate. Les précisions de Simon Rico.
Il avait été annoncé pour le printemps 2021, mais il aura fallu attendre le 19 novembre pour que le camp flambant neuf de Lipa soit inauguré en grande pompe après 11 mois de travaux et beaucoup de retard. Au total, 1,7 million d'euros ont été investis par différents donateurs européens pour bâtir ces nouvelles installations. 40 000 m², capacité d'accueil de 1500 personnes, dont 1000 hommes seuls, 200 mineurs isolés et quelques familles. Il y a des douches, une laverie, une aire de jeu et un espace dédié à la prière. Les bailleurs ont aussi offert plus de 400 000 euros pour l'exploitation du site sur une période de 16 mois, plus 1 million d'euros destinés à assurer le traçage des personnes ayant transité via la Bosnie-Herzégovine. Il semble surtout que ce camp de Lipa soit arrivé trop tard. Selon les derniers chiffres disponibles, le site n'hébergerait en ce moment que 300 personnes, à peine un cinquième de sa capacité. Et la situation est la même dans tout le canton d'Unasana, frontalier de la Croatie, la porte d'entrée de l'Union européenne, où 1000 personnes sont à peine recensées aujourd'hui contre plus de 8000 en janvier 2021. D'après certaines ONG locales, ce seraient les violences répétées des policiers croates qui dissuaderaient désormais les exilés de tenter leur chance par cette route. D'autres avancent qu'il ne s'agit que d'une situation temporaire et qu'il faut attendre le printemps pour s'assurer d'un changement d'itinéraire. Beaucoup de réfugiés qui n'ont pas réussi à passer dans l'UE par ici avant l'ouverture du nouveau camp de Lipa ont en tout cas décidé de rebrousser chemin vers la capitale Sarajevo ou même vers la Serbie pour passer l'hiver dans des centres d'accueil bien équipés.
En Pologne, la construction du mur à la frontière avec la Biélorussie doit commencer cette semaine. 180 mètres de long, 5 mètres de hauteur. Ce mur a pour but de protéger la sécurité de la nation. C'est ce qu'affirme Varsovie. Des milliers de migrants ont tenté de traverser la frontière ces derniers mois dans une crise migratoire orchestrée par le régime biélorusse. Et plus d'une dizaine de personnes y ont trouvé la mort. En plus de ce drame humain, les scientifiques et les résidents de la zone alertent sur les conséquences irréversibles pour l'environnement de la construction de ce mur dans la forêt de Białowieża, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sarah Bakaloglou.
C'est par une pétition intitulée « Contre la destruction de la forêt vierge de Białowieża » que les habitants de la zone frontalière ont exprimé leurs inquiétudes, car d'une part, disent-ils, leur lieu de résidence est devenu une zone militarisée et désormais c'est un écosystème unique au monde qui est en danger. La forêt de Białowieża, vieille de plus de 10 000 ans, à cheval sur la Pologne et la Biélorussie, un sanctuaire donc pour la biodiversité. Le professeur Bogdan Jarosevic travaille à la station géobotanique de Białowieża.
La plupart des zones frontalières internationales sont importantes du point de vue de la biodiversité. En effet, elles ont été établies il y a longtemps et les pays de chaque côté ont souvent gardé intactes des forêts pour des raisons tactiques, ce qui est une bonne chose pour la nature. Bien sûr, si un mur est construit, l'intégrité écologique de cette forêt va être perdue et les routes de migration pour les animaux vont être coupées.
Or, la forêt de Białowieża abrite la plus large population de bisons d'Europe, mais aussi des loups, des ours et des lynx, une espèce menacée. Pour l'UNESCO, la connectivité entre les deux parties de la forêt, polonaise et biélorusse, est vitale. Guy Debonnet, chef de l'unité patrimoine naturel, s'inquiète des conséquences d'un tel mur à la frontière.
C'est clair que ça, c'est une barrière écologique où plus rien ne pourrait passer, ce qui serait bien sûr une contrainte très importante pour la conservation de ce site et surtout pour la conservation de certaines espèces comme le lynx, dont la population qui est déjà extrêmement réduite. Il y a des estimations qui parlent de peut-être 10 lynx qui restent dans toute la forêt de Białowieża. Alors si cette population est encore divisée en deux parties, c'est clair que la viabilité génétique de cette population pourrait être mise en question.
En décembre, l'UNESCO a envoyé une lettre au gouvernement polonais exprimant ses craintes et rappelant que le gouvernement aurait dû les prévenir, comme cela est la règle, en cas de travaux sur un site protégé. Guy de Bonnet.
Certainement, il y a aussi des solutions techniques envisageables, comme par exemple prévoir des endroits où les animaux peuvent passer. Je pense qu'à ce moment-là, ce qui est important, c'est de voir vraiment, et c'est ça qu'on demande de la Pologne, c'est qu'ils nous donnent plus d'informations sur ce qu'ils ont exactement prévu, et aussi qu'une étude d'impact environnemental est faite pour ce qu'ils proposent, parce que ce n'est pas seulement le mur, mais c'est aussi la construction. Les opérations de construction vont aussi avoir certains impacts sur le bien.
D'autant que le temps presse, si ces dernières décennies une clôture existait à la frontière, celle-ci est devenue pénétrable avec le temps, permettant le passage des loups ou lynx d'un côté à l'autre. Mais l'an dernier, face à la crise migratoire, des barbelés ont été installés le long de la frontière et des dégâts ont déjà été constatés, même si leur ampleur est difficile à évaluer en raison des restrictions d'accès sur place. Tomasz Pezol-Cienewicz est spécialiste de la conservation de la biodiversité chez WWF.
Ces barbelés ont déjà un impact désastreux sur les animaux sauvages. Ces derniers jours, nous avons appris qu'un bison était mort à cause de ça. Et le problème, en tant qu'ONG ou citoyen, c'est qu'on ne sait absolument pas à quoi ce mur va vraiment ressembler. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils veulent faire des coupes sur une largeur de 200 mètres tout le long du mur, ce qui aurait des conséquences terribles pour la forêt, car cela reviendrait à couper environ 1000 hectares.
En 2017, des coupes avaient été autorisées par le gouvernement dans la forêt de Białowieża, suscitant la colère de Bruxelles, qui avait menacé Varsovie de sanctions financières. Mais à ce jour, la Commission ne s'est pas exprimée publiquement sur les nouvelles menaces liées à la construction du mur, dans une forêt pourtant classée site Natura 2000 par l'Union européenne. Les scientifiques redoutent que la forêt de Białowieża soit placée sur la liste des patrimoines en danger de l'UNESCO et s'inquiètent du symbole que cela représenterait. Contacté, le ministère de l'Environnement n'a pas donné suite à nos questions, malgré de multiples relances.
Cáceres, en Espagne, cette ville classée au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO est sortie de sa torpeur par un projet minier australien. Cáceres pourrait en effet abriter l'un des plus importants gisements de lithium en Europe, le nouvel or blanc de la transition énergétique. Un reportage de Diane Cambon.
On la voit partout dans les rues de Cáceres, une affiche sur laquelle est dessiné un cœur vert avec écrit en noir et rouge « No a la mina ». Maribel Rojo, biologiste et professeure, en a placardé des centaines depuis qu'elle a rejoint la plateforme citoyenne No a la mina. Cela fait 4 ans qu'elle se bat pour que la mine de lithium ne voit pas le jour.
Nous ne voulons pas d'une mine à ciel ouvert qui se situerait à seulement 800 mètres du centre historique. Il s'agit d'extraire du carbonate de lithium. Ça demande un processus chimique extrêmement polluant. Les conséquences sur la santé des 100 000 habitants de la ville risquent d'être horribles, car la poussière en suspension contient des particules contaminées. On pourrait être en train de respirer tout cela, sans parler des explosions à la dynamite en continu.
La mine se situerait dans le seul poumon vert de Cáceres, la Sierra de la Mosca, connue sous le simple nom de la Montaña. Selon l'entreprise australienne Infinity Lithium, en charge du projet, le sous-sol regorgerait de ce minerai, devenu stratégique pour la fabrication des batteries électriques. Cayetano Polo, ancien homme politique qui a rejoint l'équipe australienne, cherche à convaincre la population.
C'est probablement la meilleure opportunité industrielle pour Cáceres de toute son histoire. Les explorations qui ont eu lieu prouvent que c'est le second gisement de lithium le plus important d'Europe. Et penser que cette étude se base sur seulement 50% de ce que l'on a pu explorer. Si on allait jusqu'au bout de la prospection, il est fort probable que ce gisement soit le premier d'Europe.
Au total, la mine de lithium pourrait couvrir 1300 hectares. Le trou central pourrait mesurer jusqu'à 500 mètres de profondeur et 700 mètres de diamètre. soit l'équivalent de 33 terrains de football. Manolo, barbe et cheveux blancs en bataille, nous fait visiter sa propriété, située au centre du terrain où devrait être creusée la mine.
Là, nous nous situons au cœur du cratère. Tout autour, ils vont devoir tout arracher, creuser, détruire ces arbres centenaires. Ici vivent des mammifères, des genettes, des mangoustes. On trouve aussi chouette royale et aigle impérial. C'est le refuge des vautours qui viennent du parc naturel de Monfragüe.
Un écosystème qui serait complètement détruit au nom de la croissance verte. L'Union européenne s'est engagée sur la voie de l'économie décarbonée et veut assurer son indépendance énergétique. Maribel Rojo s'insurge contre les promesses de cette transition dite écologique.
Nous savons qu'il y a des pressions au niveau européen. Dans les discussions sur les réseaux sociaux, on retrouve des investisseurs qui estiment que l'on peut sacrifier notre région. Pour eux, 100 000 personnes, ce n'est rien comparé à l'importance de disposer de lithium pour l'industrie automobile et pour alimenter la grande économie circulaire. Mais nous, on ne voit pas comment on peut parler de circulaire, de durable, lorsque cela suppose la destruction totale d'une montagne. La fin ne justifie pas les moyens. Quel est le prix d'une économie verte si cela entraîne la fin d'un écosystème méditerranéen avec une faune et une flore incroyables ?
L'avenir économique de la ville, c'est justement l'argument mis en avant par l'entreprise minière Infinity Lithium. Cayetano Polo considère que ce projet pourra dynamiser l'emploi. C'est un véritable argument en faveur du projet, avec plus de 10% de la population locale au chômage.
Notre projet est doté de deux parties, l'une minière et l'autre industrielle. La partie minière consiste à extraire la matière première. La partie industrielle, c'est la transformation de cette roche en hydroxyde de lithium. Et cette partie industrielle, qui représente 80% de notre projet, va générer plus de 1000 emplois directs et indirects. Cependant, les habitants nous demandent davantage, que viennent plus d'industries, plus d'usines. Eh bien, nous travaillons là-dessus tous les jours. Nous avons des discussions avec des fabricants du secteur pour les incorporer au projet.
Pour l'instant, la plateforme citoyenne No à la Mina bénéficie du soutien de la municipalité qui s'oppose aussi à la mine. Dans son bureau, situé dans un palais du XVIIe siècle, en plein cœur du centre historique, Jorge Villar, conseiller municipal en charge du tourisme, explique ce choix.
On parle d'une ville qui est patrimoine de l'humanité, une ville qui axe son développement touristique sur cette combinaison magique entre les patrimoines et la nature, la gastronomie, et que cette mine, elle n'est pas possible, parce qu'on ne va pas changer les plans d'urbanisme.
Les citoyens de la plateforme No à la Mina ont remporté une première bataille. La région d'Estrémadure a refusé le 8 avril dernier le deuxième permis d'exploration à Infinity Lithium, arguant que le plan d'occupation du sol de la ville de Caceres ne le permettait pas. L'avenir de la Montagna dépend désormais du parti qui prendra la tête de la mairie dans 2 ans et de sa résistance au lobby pro-lithium.
And this, I'm here to tell you that this Viosa is what something completely beautiful and outstanding on an international scale.
Nëse duam normalisht që të shpëtojmë të vlerë, nëse duam që Viosa të qëndrojë për gjeneratat tëra kështu siç është, nëse duam brezave të përcjellim të pasuri, atëherë duhet ta mbrojmë ose duhet që të mbajmë ligat larg.
Why we are here and say we need your support.
C'est le dernier grand fleuve sauvage d'Europe. La Viosa prend sa source en Grèce avant de parcourir l'Albanie d'est en ouest et de se jeter dans l'Adriatique. Mais les écologistes albanais, comme les habitants, redoutent les barrages et réclament une protection unique pour ce cours d'eau. Les précisions de Louis Seyé.
Viosa, parc national. C'est le slogan des ONG Riverwatch et Eco-Albania. Ces associations écologistes se battent depuis des années pour préserver ce fleuve impétueux qui prend sa source en Grèce avant de traverser le sud de l'Albanie. Encore épargnée par les barrages, la Viosa coule jusqu'à la mer Adriatique, sans obstacles ni contraintes majeures, sur plus de 270 km. Un cas unique en Europe centrale qui fait de lui le dernier fleuve sauvage du continent européen, Russie mise à part. Depuis des années, les scientifiques enchaînent les expéditions pour étudier la dynamique de la Viosa. Ce fleuve méditerranéen pourrait servir de modèle afin de restaurer ailleurs les cours d'eau abîmés par l'industrialisation et l'urbanisation. Mais les eaux indomptées de la Biosa n'attirent pas que les biologistes. Pour les investisseurs aussi, le débit des rivières sauvages balkaniques est un trésor, synonyme de rapides bénéfices. Les ONG recensent ainsi près de 3000 projets de centrales hydroélectriques dans le sud-est de l'Europe. Une trentaine de ces projets de barrages menacent ainsi la Biosa et la plupart de ses affluents. Alors que l'Albanie dépend déjà à 95% de l'hydroélectricité, les écologistes et les scientifiques ont appelé les autorités locales à protéger l'ensemble de la vallée de la Biosa en la déclarant parc national. Un fleuve parc national, ce serait une première en Europe.
Die CDU-Basis hat gesprochen. Nach ihrem Willen soll Friedrich Merz neuer Parteivorsitzender werden.
La CDU allemande a officiellement un nouveau chef. Friedrich Merz a pris les rênes du Parti chrétien-démocrate. Réuni en congrès à Hanovre, les délégués du parti ont confirmé le vote des militants qui lui avaient accordé 62% des voix. Après cette victoire sans appel, Friedrich Merz, l'anti-Merkel, entame un mandat en promettant une opposition constructive à la coalition gouvernementale. Son portrait est signé Anastasia Becchio.
Voilà plus de 20 ans qu'il rongeait son frein. Évincé sans ménagement de la tête de son groupe parlementaire par Angela Merkel en 2002, Friedrich Merz s'était ensuite retiré de la scène politique avant d'y revenir en 2018. Entre-temps, le géant sec d'1m98 a fait fortune dans la finance. Par deux fois candidat malheureux à la présidence du Parti chrétien-démocrate, il y accède enfin, Werner Patzelt, politologue et membre de la CDU.
Il tient enfin sa revanche. Il succède à sa rivale politique de toujours, Angela Merkel. Mais beaucoup dépendra de sa capacité à dépasser ce sentiment de vengeance et d'accepter de jouer son rôle de chef de parti, qui implique aussi de coopérer avec les proches d'Angela Merkel.
À 66 ans, Friedrich Merz, l'anti-Merkel, tire profit du nouveau mode de désignation par les militants et non plus uniquement par les élus du parti. Après les années Merkel, la CDU devrait opérer un recentrage vers la droite sous la houlette de Friedrich Merz, même si ce dernier veut donner aujourd'hui l'image d'un rassembleur.
J'accepte cette désignation par nos militants. Je me réjouis de travailler avec vous tous, sans exception.
Très critique de la politique qu'il jugeait trop centriste d'Angela Merkel, opposé à l'accueil des réfugiés en 2015, il a tenu ces dernières semaines un discours d'apaisement. Mais il est souvent décrit comme peu apte à travailler en équipe. Étienne Dubsblaff, maître de conférences en civilisation allemande à l'université Montpellier III.
C'est effectivement quelqu'un de tranchant. Là où Angela Merkel était quelqu'un de relativement rond, ou du moins qui ne cherchait pas à mettre en scène des conflits et plutôt à chercher à les contourner ou à trouver des compromis, Merz est beaucoup plus rentre-dedans, si vous voulez. Mais ça peut aussi plaire à une certaine base qui se trouvait un peu orpheline sous Merkel, au sens où les idées conservatrices et libérales n'auraient pas été assez défendues par la chancelière. Donc ça peut être aussi un bon point pour Merz.
Souvent présenté comme misogyne, Friedrich Merz a choisi une jeune mère de famille, Christine Stump, pour devenir vice-présidente. Pour tenter de sortir son parti de l'ornière après la débâcle législative de septembre, le nouveau chef de l'opposition chrétienne-démocrate va devoir donner une ligne claire, tout en faisant preuve d'une plus grande ouverture, estime Werner Patzelt.
Il doit aussi tenir compte de l'opinion publique. Et en Allemagne, cette opinion publique est influencée par les journalistes qui, pour les trois quarts d'entre eux, défendent des positions écologistes et social-démocrates. C'est pourquoi s'il veut travailler avec l'opinion publique et ne pas être mis sur la touche par cette opinion publique, il doit montrer qu'il n'est pas un simple conservateur de droite, mais une personne centriste, plus ouverte d'esprit.
Friedrich Merz passera un premier test dès le mois de mars avec l'élection régionale de Saar, aujourd'hui dirigée par la CDU, en coalition avec les sociodémocrates.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.